auditeurs de la Galerie de la Vie.
Se termine un peu plus tard. Mais on va commencer sans doute. Alors, est-ce que vous souhaitez qu'on refasse un petit tour de table pour que vous puissiez prendre les noms des... Voilà, alors on va faire rapidement un tour de table pour que Florian Lagan sache ce qui est autour de la table et surtout parce que pour que dans le compte-rendu qui est rédigé, on puisse attribuer les paroles des uns, non pas aux autres, mais aux bonnes personnes qui les ont prononcées. Le compte rendu du débat que nous avons, si on se trompe d'interlocuteur, en général, ça complique encore plus les choses.
Je commence, Alexei Greenbaum, donc c'est Saclay. Comme on dit physicien et philosophe, mais ça va être vrai pour tout le monde.
Oui, moi aussi, Jean-Petit Tour, chambre de mathématiques de l'école de sciences sociales, depuis collège, première année, cofondateur du collège.
Marc Lechesbray, directeur de recherche à APC, ce qui veut dire c'est le labo astro-particules et cosmologie qui dépend de Paris Diderot. Et j'ai fait beaucoup de cosmologie et de gravité quantique essentiellement. Puis je m'intéresse évidemment aux problèmes de temps, l'espace, la réalité physique, etc.
Je suis Catherine Pépin, je suis chercheuse à l'IPHT, au laboratoire physique théorique du CEA. Et en ce moment, j'essaie de résoudre le supraconducteur en température. La philosophie en tant que comme amatrice.
Il y a Lorraine Latremblay, qui fait doctorante de dossier médical, jeune physicienne.
En combien de temps année de thèse, vous ?
Première.
Ah oui. On doit parler de vous.
Oui, je vais parler aussi de vous.
Max Kistler, je suis professeur de philosophie à Paris.
C'est bien que vous vous présentiez aussi.
Oui, donc Florian Lagans. Je suis jeune docteur, parce que j'ai soutenu ma thèse fin octobre, sous la direction de Michel Picbol. À Paris 1 en philosophie et j'enseigne pour partie donc à l'IPC, donc vous voyez le logo qui est un établissement d'enseignement supérieur privé qui se trouve à Port-Royal en vis-à-vis de l'Observatoire et qui abrite une licence de psychologie et une licence de philosophie. Et donc j'enseigne un certain nombre de cours, notamment l'histoire de la philosophie moderne et puis l'histoire des sciences physiques. Et puis il se trouve, j'enseigne aussi au lycée, mais au lycée j'enseigne des mathématiques. J'étais avec mes terminales tout à l'heure. Là. Ils attendent le compte-rendu de la séance pour mercredi. Curieux. De fait, merci de votre invitation.
On présente pas Michel, tout le monde le connaît.
Oui, je vais vous présenter. Michel Paul, je suis chercheur aux archives CERN et, adepte d'une approche phénoménologique de la philosophie de la physique.
Donc, merci vraiment encore de votre invitation, qui s'inscrit justement dans la continuité de la thèse sur laquelle j'ai travaillé pendant 4 ans autour de la philosophie de la physique d'Arthur Eddington. Et puis, en préalable, je dirais juste un bref mot à la fin d'un colloque qui s'organise pour le mois de mai autour d'Eddington, pas seulement de sa philosophie de la physique, du reste, et à l'occasion du centenaire de l'éclipse de 1919. Ils sont en train de mettre au point un colloque, je vous dirai quelques brefs mots tout à la fin, mais ce n'est pas du tout le cœur de mon propos, loin de là. Peut-être, si vous permettez, d'abord quelques éléments de contexte, parce que je suppose que, évidemment, un certain nombre d'entre vous connaissent déjà le personnage. Peut-être quelques éléments de précision pour nous centrer ensuite sur la philosophie de la physique d'Eddington, et en particulier sur son rapport à la mécanique quantique. Je me suis permis ce titre, un voile de symbole, en référence à Bernard d'Espagnol, qui, donc, je crois, le collège doit sa fondation, entre autres. Même si, il faut que je l'avoue dès le départ, certes, l'expression est bien chez Eddington, le voile de symbole, on va y venir, mais à ma connaissance, elle n'est en rien liée au réel voilé de Bernard d'Espagnol, qui ne cite jamais Eddington sur ce point. Mais enfin, ça, mon avis, résume bien la conception de la philosophie de la physique d'Eddington, à un moment donné, en tout cas de sa carrière, dans la mesure où, et c'est je crois un point qui mérite toute notre attention, Eddington a évolué dans sa conception du monde physique, selon trois périodes que je vais essayer de décrire, en me concentrant précisément sur la période centrale qui s'articule autour de cette notion de symbole. Peut-être dans quelques éléments très brefs de contexte du reste, parce qu'aujourd'hui, à mon avis, si Eddington reste connu, c'est pour son œuvre de physicien d'abord, et en particulier son travail autour de la relativité générale. De fait, avant d'entrer en contact avec la relativité générale, Eddington était d'abord élève à Cambridge, au Trinity College, avant de devenir, dès la sortie de l'université, directeur adjoint de l'Observatoire Royal. Donc, il avait tout juste 24 ans, il était en charge de la gestion de l'observatoire, de la vingtaine de personnes qui constituaient le personnel, et puis au bout de quelques années, je passe sur les recherches qu'il a effectuées à cette époque, il a été élu comme professeur d'astronomie à Cambridge, et puis en 1914, au tout début de la Première Guerre mondiale, comme directeur de l'observatoire, et il va rester à ce poste pendant les 30 années qui suivent, jusqu'à sa mort en 1944, sans rapport avec la guerre, il est mort de maladie, vraisemblablement d'un cancer. Mais il va constituer, peut-être, jusqu'à présent personne ne m'a démenti, l'astronome le plus influent de l'entre-deux-guerres, le plus influent du monde. Il reste connu, à mon avis, dans le domaine de la physique pour un certain nombre d'aspects, notamment ses études en astrophysique, et puis autour notamment des modèles pour représenter les étoiles. Je ne dis rien là-dessus, même si évidemment ce serait tout à fait passionnant et lié à sa conception de la philosophie à beaucoup d'égards. Ce pourquoi il reste, on pourrait dire encore aujourd'hui, universellement connu, c'est dans les années 30, sa promotion d'un modèle d'univers en expansion, son lien avec Georges Lemaître, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites déjà là-dessus, notamment par Dominique Lambert, par Jean-Pierre Minet, et puis aussi, et peut-être même encore plus, justement, pour son implication dans la diffusion de la théorie de la relativité générale. C'est par là que je commence, et j'arrêterai presque à cet endroit-là déjà les considérations historiques. En 1915-1916, Eddington, que vous voyez sur la photographie de gauche, au premier rang, à gauche, à côté de Lorentz, et puis au-dessus, Einstein, Ehrenfest et De Sitter qui est le personnage central du début de la relativité générale, dans la mesure où, une fois qu'Einstein a eu publié sa théorie en novembre 1915, encore fallait-il la diffuser. Et le premier foyer d'études de la relativité générale, c'est l'université de Leyde, aux Pays-Bas, grâce à l'activité intense de Lorentz, d'une part, et de De Sitter, d'autre part, qui est le professeur d'astronomie et le directeur de l'observatoire à Leyde, aux Pays-Bas. Sauf qu'on peut s'en douter, du fait du conflit, il y a une rupture très forte des communications entre les savants allemands et les savants, par exemple, anglo-saxons, enfin, britanniques. Et donc, à l'époque, en Angleterre, on n'a aucune nouvelle et on ne sait rien de la théorie d'Einstein. C'est De Sitter qui, par une lettre de juin 1916, donc plus de 6 mois après la publication des articles d'Einstein, va écrire à Eddington, puisqu'Eddington est alors son homologue, d'abord, puisque l'un dirige l'observatoire de Leyde, l'autre celui de Cambridge, et puis Eddington est alors le secrétaire pour l'étranger de la Société Royale d'Astronomie en Angleterre. Et donc c'est à lui qu'il écrit pour lui faire part de cette innovation théorique. Et c'est grâce à Eddington ensuite que De Sitter va faire paraître 3 articles en anglais en Angleterre pour faire connaître la théorie de la relativité générale. Et c'est Eddington encore qui en 1918, je passe évidemment à rentrer sur tout un tas d'événements intermédiaires, Eddington qui en 1918 va rédiger le premier texte en anglais, directement écrit en anglais, autour de la relativité générale, ce rapport à la demande de la société physique. Donc c'est une petite centaine de pages qui présente en synthèse les travaux d'Einstein. Le dernier événement majeur que j'évoque, bien entendu, c'est l'éclipse du 29 mai 1919, que l'on célébrera, dont le centenaire sera célébré dans quelques mois, et au cours de laquelle, c'est extrêmement connu, Eddington a participé, il n'est évidemment pas le seul, à la mesure de la déviation des rayons lumineux provenant d'étoiles proches du Soleil, de notre point de vue en tout cas. Événement qui a constitué le point de départ de la médiatisation d'Einstein, de la célébrité de celui-ci, enfin il y a aussi évidemment énormément à dire, aussi sur le rôle d'Eddington qui a été beaucoup débattu à propos de cette éclipse et puis de l'analyse des résultats qui en a suivi. Si de fait ça vous intéresse, je pourrais en dire davantage, mais on est encore ici loin de la mécanique quantique. Ultimement, Eddington a entrepris de diffuser la théorie de la relativité générale auprès, pour en faire un nouveau paradigme, parce qu'encore fallait-il que les physiciens accèdent au contenu technique de la théorie, et de ce point de vue, il a été l'un des rares, et à un certain moment le seul, à enseigner la théorie de la relativité générale à l'université de Cambridge pendant toute sa carrière. Et dès 1920, il va donner un cours d'abord d'initiation qui a donné lieu à un livre, Space, Time and Gravitation, qui est un livre dans lequel il y a peu de mathématiques, parce que l'idée d'Eddington était d'abord d'essayer de transmettre aux étudiants, aux collègues aussi du reste, les bouleversements conceptuels qui sont véhiculés par la relativité générale, avant que de transmettre l'appareillage technique, qui lui est exposé dans un autre ouvrage, La théorie mathématique de la relativité, qui fait suite en fait au cours d'approfondissement qu'Eddington a donné à Cambridge. Donc ces deux ouvrages sont des manuels, on pourrait étayer évidemment ce point, des manuels complémentaires, l'un d'initiation, l'autre d'approfondissement, pour entrer dans la relativité générale, et ils vont garder une vraie importance dans l'apprentissage des physiciens, à tout le moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ils sont du reste encore donnés comme de relativement bons ouvrages de physique, d'autant plus qu'Eddington, dans la théorie mathématique, va présenter, certes, la théorie d'Einstein, mais aussi les travaux d'Hermann Weyl pour la généraliser, et ses propres travaux, dans une bonne partie, à la fin de l'ouvrage, qui consiste en une généralisation théorique de l'espace-temps einsteinien. En parallèle de cela, et dès 1919, Eddington va s'engager sur la voie de la philosophie. Non pas qu'il ne s'y intéressait pas avant, mais il n'avait pas de formation spécialisée en philosophie. Il a lu des philosophes, notamment Poincaré, Bertrand Russell aussi, mais beaucoup Poincaré, puisque ici même, l'Académie des sciences conserve une lettre d'Eddington, parce qu'elle lui a décerné en 1919 un prix, et à l'occasion de ce prix, Eddington a rédigé une lettre de remerciement, tout simplement, dans laquelle il fait tout un éloge, un hommage, et en détaillant ce qu'il doit à Poincaré. De fait, Eddington a aussi entrepris, au moment de la mort de Poincaré, de rédiger sa nécrologie. Il y a tout un tas d'événements comme ça qui les relient. Eddington, donc, à l'origine, n'était pas philosophe. Il est devenu, et sa philosophie de la physique a fait l'objet de relativement peu d'études. Il faut tout de même signaler, et je dois beaucoup signaler l'étude de Jacques Perle-Ponty en 1965, qui avait consacré, outre sa thèse principale, qui a donné lieu au livre Cosmologie du XXe siècle, une thèse complémentaire sur Eddington, qui a été publiée aussi en 1965, autour de la philosophie de la physique d'Arthur Eddington. L'un ou l'autre livre avait été aussi rédigé dans les années 50-60, mais pas d'études d'ensemble particulières depuis ces dates, même si la philosophie de la physique d'Eddington tend à être à nouveau prise en compte, notamment dans la discussion autour du statut de l'espace-temps et du structuralisme contemporain. Je pense à Michel Vigbol, je pense aussi en Angleterre par exemple à Stephen French qui a beaucoup fait et qui a écrit un article relativement long et très, très fourni sur la philosophie de la physique d'Eddington et en particulier sur ce qu'il appelle son structuralisme. De fait, la carrière philosophique d'Eddington, si l'on peut dire, s'étend de 1920 jusqu'à sa mort, depuis un premier article en 1920 dans Mind sur la signification de la matière d'après la théorie de la relativité, jusqu'à un dernier ouvrage philosophique en 1939, La philosophie de la science physique. Entre ces deux, un certain nombre de textes, articles et livres. Si je peux permettre de poser déjà là un instant pour dire un mot du travail qui m'a occupé pendant 4 années sous la direction de Michel Vigbol, il s'est agi pour moi d'abord d'essayer de reconstituer la pensée philosophique d'Eddington avant même que de la comprendre. Parce qu'il n'existe à ce jour aucune bibliographie, un tant soit peu complète, de ses œuvres. Donc la première étape, ça a été de trouver sa philosophie de la physique. Bien sûr, dans des livres, la difficulté n'est pas vraiment là, parce qu'il a écrit relativement peu de livres, une petite dizaine. Et même dans ses livres techniques, il y a des considérations. Un de ses livres physiques les plus fameux, c'est « Internal Constitution of the Stars », la constitution interne des étoiles. Et même dans cet ouvrage de 1926, vous avez des pages, pas souvent, mais par moment, 2-3 pages successives sur des considérations, sur le lien entre théorie et expérience dans la physique, etc. Et au long d'en fait un certain nombre d'articles, et même de recensions, de rapports, il y a tout un tas de considérations sur la philosophie de la physique. Jusqu'à présent, disais-je, la plus importante bibliographie qui avait été constituée à propos d'Eddington ne provenait pas des thèses qui lui avaient été consacrées, mais de la biographie qui a été écrite en 1956 et qui comporte 180 références exactement. De fait, on est loin du compte, puisque j'ai trouvé, parmi les documents publiés, 340 documents, Donc il y avait encore beaucoup à trouver. Et puis, documents publiés que l'on peut compléter par un certain nombre de sources d'archives, qui détaillent aussi, par moment, quoique ces sources d'archives, il faut bien l'avouer, soient dans l'ensemble beaucoup plus historiques que philosophiques. Mais enfin, il y a énormément de documents qui restent à exploiter, dans la mesure où il était de notoriété, Kennington avait laissé peu de documents, et donc il restait, pour ainsi dire, rien, si ce n'est son journal personnel qui se trouve à Cambridge, et dans lequel il a listé un certain nombre de ses lectures. C'est de cette manière qu'on sait qu'il a lu Russell, Poincaré, on sait même en quelle année, etc. Mais il était, voilà, de réputation qu'il n'y avait rien d'autre à trouver. De fait, il reste en fait beaucoup à trouver, parce que j'ai mis à jour près de 800 lettres inédites, mais elles sont très difficiles à trouver parce qu'elles sont éparpillées, et elles sont à ce jour dans 58 bibliothèques différentes. Donc, on comprend que personne n'ait eu... Il était très difficile de réussir à avoir une vue d'ensemble de tout ce matériau documentaire. De fait, pour ce qui nous occupe aujourd'hui, je me permettrai de me concentrer sur peut-être deux ouvrages qui sont dont l'un est le plus philosophique d'Eddington, avec celui que j'ai présenté précédemment, la philosophie de la science physique. Celui-ci est peut-être un de ses ouvrages les plus connus, La nature du monde physique, qui, comme vous le voyez, a été traduit en français l'année suivante sa parution. Ouvrage extrêmement connu, qui s'ouvre par une métaphore, qui est sans doute le texte le plus célèbre d'Eddington, dans lequel il dit « J'écris ce livre sur deux tables, une table scientifique, une table familière », et puis il développe cette métaphore au long des premières pages. C'est dans cet ouvrage aussi qu'Eddington a manifestement inventé une expression très connue en physique, mais qui ne lui est plus du tout attachée, celle de flèche du temps, pour parler de l'entropie. La première occurrence, à ma connaissance, se trouve ici. Et puis, un certain nombre d'aspects de vulgarisation, puisque c'est vraisemblablement le premier ouvrage qui a entrepris, en 1928, de vulgariser les travaux d'Heisenberg et de Schrödinger quelques 2 ou 3 ans auparavant. Et Bertrand Russell, d'ailleurs, a écrit à son époque que c'était ce qui avait été fait de mieux pour vulgariser la mécanique quantique. Donc Eddington n'est pas seulement un philosophe de la relativité, même si, c'est vrai, son nom est attaché à la relativité, et même s'il n'a jamais travaillé spécialement dans le champ de la mécanique quantique en tant que spécialiste physicien. Son domaine, c'était l'astrophysique. Mais il a considérablement réfléchi à la mécanique quantique. L'autre ouvrage que je souligne en particulier, c'est un ouvrage de 1935, traduit l'année suivante aussi en français, signe de la notoriété d'Eddington. Enfin, il faut bien se rendre compte que en première moitié du XXe siècle, pratiquement aucun philosophe n'avait lu Eddington. Et vous trouvez Eddington mentionné chez Bergson, chez Hempel, chez Heidegger, chez Braunschweig, chez Bachelard, chez Meyerson, chez Maritain, enfin des gens qui n'ont a priori aucun rapport. Mais enfin, et même Cocteau et Simone de Beauvoir ont lu Eddington, dans leurs journaux respectifs des mentions. Donc, à peu de choses près, tout le monde l'avait lu à cette époque. Donc extrêmement célèbre, notamment par le livre précédent, La nature du monde physique. Dans cet ouvrage-ci, on a un compte-rendu d'un certain nombre de recherches physiques, mais aussi de travaux philosophiques. Pour progresser encore sur la question de la mécanique quantique et du symbole, je voudrais vous présenter ce qui me semble être, pour moi, une découverte, en tout cas, à la lecture des textes qu'Eddington a publiés. Cette découverte, c'est une périodisation. Il me semble que l'activité philosophique d'Eddington peut se découper en 3 périodes que j'ai représentées ici. Et la période qui va nous occuper davantage, associée au livre que je viens de présenter, c'est celle 1925-1935, autour justement de la notion de symbole. Je m'arrête, si vous permettez un mot, sur cette périodisation, qui est, à mon avis, même le mot découpage ne me semble pas tout à fait convenir, mais plutôt, ce sont 3 points d'insistance de la philosophie d'Eddington au fur et à mesure de son activité philosophique, justement, parce qu'ils ne correspondent pas à une division, par exemple, de ses recherches physiques, mais ils correspondent, je crois, à des étapes dans l'évolution de sa pensée philosophique. Dans la première phase, et j'essaierai de conserver le mot de phase plutôt que de période qui donne l'idée qu'Eddington a changé d'avis, comme on parle de philosophe de telle période, le premier Wittgenstein, le deuxième. Il n'y a pas de premier, deuxième ou troisième Eddington. Il y a une continuité de développement et en même temps 3 thèmes sur lesquels il insiste successivement. Et je crois que cette évolution éclaire considérablement ses écrits, et il me semble qu'elle n'avait pas été remarquée jusqu'à présent. Dans la première phase, 1919-1925, le thème qui domine, donc permettez-moi, je fais un bref portrait, et puis je m'attarderai sur la période centrale. Donc, 1919-1925, le thème qui domine les écrits d'Eddington, c'est le thème de la synthèse. Qu'est-ce qu'il entend lui-même par là, puisque c'est le mot qu'il emploie? Et c'est évidemment le thème qui domine l'article que j'ai présenté au début sur la signification de la matière, l'article de 1920. L'idée d'Eddington est la suivante. La relativité a étendu le champ des propriétés contextuelles. Tout est relatif, manifestement, tout ou presque tout, parce qu'il n'est pas laissé tomber, il n'est pas tombé dans le piège de dire que tout était relatif, etc. Il avait bien remarqué l'importance des invariants physiques. Mais de fait, il y a un certain nombre de choses qui apparaissaient comme des propriétés intrinsèques des corps, comme par exemple la masse, et qui devient relative à un contexte. Cela étant dit, justement, tout est-il relatif? Sommes-nous condamnés à une description, on pourrait dire, subjective, au sens de rapporter sans cesse à un sujet avec un point de vue particulier dans l'univers? Est-il possible d'adopter un point de vue surplombant à chaque point de vue particulier? Eddington répond oui. D'après lui, c'est la synthèse opérée du point de vue technique par le tenseur métrique qui apparaît comme pouvant fournir un point de vue global sur l'univers et regroupant tous les points de vue particuliers. En cela, l'idée d'Eddington, c'est que l'on se rapproche le plus de l'objectivité lorsqu'on met en place une intersubjectivité. D'après lui, le tenseur métrique de la relativité générale représente ce que verrait chaque personne dans un point, dans un temps et un lieu particulier, dont le tenseur métrique contient la synthèse de tous les points de vue possibles. Et autant chaque observateur découpe le monde selon un espace et un temps particulier, autant le tenseur métrique permet de représenter l'espace-temps dans son unité. Et pour Eddington, cette synthèse dégage un accès au monde tel qu'il est. Et son expression, c'est le monde réel. La synthèse nous fait toucher au monde réel. Donc, Eddington a des phrases très fortes comme « le monde réel est à quatre dimensions ». Cela étant dit, pendant cette période, il a déjà conscience des travaux autour de la physique quantique. Et cette histoire de quantum d'action, ça le travaille. Et à la fin de l'article de Mind, en 1920, il dit « Sans doute, l'action est-elle ce qu'il y a, je cite, de plus réel dans la description de la physique ?» Au sens où Eddington a pensé qu'avec la quantification, on atteignait en physique l'état ultime de la matière. Et donc quelque chose qui touche de plus près au réel. En bref, c'est une période qu'on pourrait qualifier d'un certain réalisme à l'égard de la science physique. Mais il y a, je crois, un moment de rupture, un moment assez fort, qu'il faut situer en 1925. Autant la séquence autour de 1935 est plus dans une continuité, autant 1925 est un moment très fort pour Eddington. D'une part, par le principe d'Heisenberg, qui va le marquer, dit-il, autant que le principe de relativité. Donc Eddington est encore aujourd'hui associé à la relativité, mais encore une fois, je crois que la mécanique quantique a eu sur lui une influence extrêmement forte dans sa philosophie de la physique. Et d'autre part, à la description probabiliste que va proposer Schrödinger. Dans l'ensemble, le bouleversement eddingtonien est celui-ci. Je croyais que la quantification nous ferait accéder au monde réel. En fait, il n'en est rien. Ce dont nous parle la mécanique quantique, ce sont de probabilités, autrement dit, de notre propre connaissance du monde. À partir de 1925, Eddington va subir une sorte d'inflexion de sa pensée vers un anti-réalisme très fort. À cause, précisément, de la mécanique quantique, à cause de du principe d'Heisenberg et de l'importance de la notion de probabilité dans la théorie quantique, pour Eddington, il est clair qu'il s'agit d'une description du monde tel que nous le connaissons, tel que nous le pensons, mais pas du monde tel qu'il est. Et ceci va contribuer à l'affermissement de ce qui était déjà présent dans la première phase, une forme d'opérationnalisme. Les quantités physiques sont définies par les processus de mesure, et le physicien n'accède à rien d'autre, d'après Newton, que ce qui est lié à la mesure d'une manière ou d'une autre. Autrement dit, c'est un moment, cette décennie 1925-1935, d'insistance sur la notion de symbole. Et dans l'ouvrage de 1927-28, selon le français ou l'anglais, La nature du monde physique, j'ai compté plus de 200 occurrences du mot symbole, à plus qu'à de nombre de pages. Et il insiste sur le fait que la physique est une description symbolique du monde. On n'est plus du tout dans le premier réalisme qu'il avait proposé, auquel il pensait.
Excusez-moi, oui. Parce que vous pouvez définir symbole, parce que là je ne vois pas bien le lien avec le fait que la physique se concentre d'abord sur la clé d'observation.
Oui.
D'après ce que j'ai compris, qui était son changement. Son changement de point de vue.
Le matériau de base pour la physique, ce sont les mesures, et les résultats des mesures.
Ouais. Jusque-là, pas de symbole.
Jusque-là, pas de symbole. Cela étant dit, il faut bien unifier l'ensemble des résultats sous la forme d'une loi, d'une théorie, etc. La question est de savoir dans quelle mesure est-ce que les théories physiques, donc là je suis au niveau des théories, nous renseignent sur le réel. À l'époque, c'est là où la question de la structure arrivera après, mais dans la décennie 1925-1935, l'idée d'Eddington, c'est de dire la physique est une représentation symbolique du réel, autrement dit, elle décrit suffisamment le réel pour prédire des résultats de mesure. Et même pas pour prédire des résultats, pour prédire, on pourrait dire, une gamme de résultats comme en mécanique quantique. Vous ne faites pas de prédiction sur un résultat particulier, mais vous faites une prédiction sur la probabilité que l'on obtienne tel ou tel résultat. Il ne s'agit jamais pour lui. Donc le mot symbole, en fait, il lui sert à prendre ses distances avec le réel. Et. Pardon ?
Non, mais justement,
ça,
si.
C'est...
Non, non, mais justement, ça, c'est la question.
Pour moi, symbole, est-ce c'est que... l'occurrence plutôt
non.
que.
Non, non, non. Non, non.
Mais lorsque vous avez compté 200 occurrences, est-ce que l'adjectif mathématique est systématiquement présent
non.
à côté du mot symbole ?
Absolument pas. Voilà, absolument.
C'est voir c'est une théorie comme un ensemble de symboles
Non, c'est oui, mais ça, à la rigueur, c'est pas impressionnant au sens où les mathématiques sont symboliques.
Oui.
Mais plutôt,
oui.
c'est voir la théorie comme.
C'est comme chez Cassière là.
Comme quelque chose.
Ma question est très naïve. Hein.
Oui, j'entends, mais j'essaie de décrire le plus précisément possible. C'est de dire.
On fait des calculs.
La théorie permet, vous avez dit anticiper, dans une certaine mesure, parce qu'on n'anticipe pas une valeur particulière, mais Eddington reste même pas prudent. Il affirme que l'on ne sait pas ce que la théorie dit du réel en tant que tel. Et c'est à ça que lui sert le mot symbole. Et voilà pourquoi il va utiliser l'expression « un voile de symboles ». Autrement dit, nous sommes confrontés à des symboles qui sont mathématiques, et qui voient l'accès au réel dans la mesure où on ne peut pas savoir exactement ce qu'il représente dans le réel. D'où le fait que Bertrand Russell va qualifier Eddington de sceptique. Il va dire, si on suit la pente d'Eddington, on devient un sceptique. Il parle du scepticisme scientifique d'Eddington. Parce qu'Eddington, dans ses ouvrages, La nature du monde physique et Les nouveaux sentiers de la science, là, l'ouvrage de 1936, va avoir des phrases très fortes comme le physicien ne connaît jamais la nature des choses. Donc il est, pour le coup, clairement anti-réaliste pour ce qui est de la science. La science ne nous fait rien connaître du monde. Alors vous allez me dire, mais alors pourquoi être, à ce moment-là, son idée va être que... Il va être dans une sorte d'angoisse. Parce qu'il est quand même physicien professionnel. Donc il serait bon quand même que la science nous fournisse certains renseignements sur le réel. Et donc, c'est là qu'intervient la troisième phrase. Le rebondissement, il intervient quand Eddington prend conscience, notamment sous l'impulsion de Russell, de l'importance de la notion de structure. Son idée va être, en bref, la suivante, idée qui va germer petit à petit au début des années 30 et qui va prendre une place centrale à partir de 1935-36 et dans le livre qui suit Les nouveaux sentiers de la science. et puis dans toute la suite, notamment dans la philosophie de la science physique, son dernier ouvrage, où le thème de la structure est tout à fait dominant. Son idée est, j'ai pu être tenté par la pente du scepticisme, mais je me rends compte que la physique peut accéder non pas à la nature intrinsèque des choses, mais à la structure du monde. Son idée étant que on accède toujours par la mesure à une interaction, interaction entre un instrument et un objet, et que la physique est capable de rendre compte de ces interactions. Mais ce qu'est fondamentalement l'objet que vous étudiez, ça n'est pas son problème. Exemple, ça va s'appliquer assez facilement aux questions, par exemple, de l'atome ou de l'infiniment petit. L'atome, dit, est une hypothèse constituée par l'ensemble des procédures qui servent à le mesurer. Et j'appelle atome ce qui correspond à tel ou tel critère. Et de fait, le physicien expérimentateur a tendance à croire qu'il voit des atomes. Or, on ne voit jamais des atomes. On voit une image sur l'écran, on voit une représentation, etc. On voit l'expérience de la chambre de Wilson a été très forte pour Eddington en 1935. On voit des trajectoires. Mais Eddington dit on ne voit pas du tout des atomes. On reconstitue, en rebroussant chemin, par la théorie, on reconstitue ce que l'on appelle un atome. Et ce qui est assez fort chez Newton, et qui à mon avis est très important, c'est que c'est aussi vrai dans le champ macroscopique. Il écrit, je cite, « Une étoile n'est pas plus ou moins hypothétique qu'un atome. » Et on reconstitue ce qu'est une étoile à partir d'informations que l'on obtient à partir d'instruments de mesure. Et de fait, Newton a largement contribué à cet aspect-là. Dans ce registre, pour maintenant revenir à la partie centrale, le texte fondamental d'Eddington, le texte le plus connu d'Eddington, c'est le texte des deux tables. Donc Eddington dit, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce texte, texte tellement célèbre que même Heidegger le cite, alors qu'il a vraisemblablement lu rien d'autre d'Eddington que ce texte, mais enfin ce texte, a priori, tout le monde l'a lu à l'époque. Eddington dit, j'écris mon livre sur deux tables. C'est le texte de l'entrée en matière de la nature du monde physique. Une table familière, qui est dure, qui est marron, qui est solide, qui est tiède, etc. Et une table physique qui est largement constituée de vide. La fameuse histoire de la structure lacunaire de la matière. Alors on a fait d'Eddington un dualiste. Eddington voit une table familière, une table physique côte à côte, et la morale de ce texte, qui est la métaphore d'ouverture du livre, serait de nous dire que le physicien a détruit l'image familière au profit d'une image scientifique. La table verte, marron ou dure, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est des atomes avec du vide au milieu. C'est tout le contraire que veut faire Eddington dans le texte. Et pour s'en rendre compte, il suffit de lire l'introduction jusqu'au bout. De fait, il dit, je vais même pouvoir citer le petit passage, que l'objectif de son image et pas de disqualifier notre représentation quotidienne au profit de la science, mais d'insister sur la séparation entre les deux pour ne pas contaminer la représentation physique de notre représentation familière. On représente les atomes par des petites billes de couleurs qui tournent, etc. C'est ce qu'on fait au lycée, enfin. Mais il faut, dit Eddington, apprendre à s'émanciper, je cite, de la représentation familière des objets physiques. On ne sait rien d'autre de l'objet physique que ce qu'en dit la théorie et ce que les mesures peuvent révéler. Les objets physiques sont des symboles, et il insiste, je cite la conclusion de l'image des deux tables, il est difficile de nous entraîner nous-mêmes à traiter le monde physique comme un pur symbole. Nous persistons à toujours mélanger aux symboles des idées sans aucun rapport avec eux, tirées du monde de la conscience. Fin de citation. Donc, pour prendre une analogie, c'est le morceau de cire d'Eddington. Le texte du morceau de cire se trouve dans la deuxième des méditations métaphysiques de Descartes. Son objectif, c'est d'humilier l'imagination, c'est ce que dit Descartes, humilier l'imagination pour apprendre à celui qui médite à ne pas contaminer ce qui est purement rationnel, avec des éléments qui viennent de l'imagination. Donc, le texte du morceau de cire, c'est « Cette cire que vous croyez connaître par vos sens, vous ne la connaissez, je cite, que par une simple inspection de l'esprit. » C'est donc l'esprit qui fait connaître et pas les sens. Il y a quelque chose de semblable, évidemment pas identique, mais de semblable avec le texte des deux tables chez Newton. Il s'agit d'essayer d'apprendre au lecteur, c'est un exercice spirituel, si vous voulez. Il s'agit d'apprendre au lecteur qui démarre la lecture de l'ouvrage, dans laquelle la notion de symbole va être centrale, de lui apprendre à décontaminer sa conception de la physique pour séparer ce qui est proprement physique de ce qui est familier, comme il dit. Et donc, dépolluer la représentation physique de toutes les images, on pourrait dire concrètes, que l'on y attache.
L'optique de ça, c'est une optique spirituelle ou une optique scientifique?
Qu'est-ce que vous appelez spirituel?
Parce qu'en science, moi je vois aucun mal à ce qu'il y ait des images mentales partout. Pour faire de la science, le scientifique, le chercheur, en fait, il ne peut pas se passer d'image mentale.
Qu'est-ce que vous appelez une image mentale? Une représentation visuelle?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les concepts scientifiques ont tous une représentation visuelle. Et quand on parle à un collègue, pratiquement.
Alors, peut-être que tous, moi je serais...
Vert, par exemple,
après, qu'il y ait deux choses. Parce que, quelque part, ça rejoint aussi un point qui est très important chez Newton, c'est la place de la vulgarisation. Parce que quand on vulgarise, on représente avec des images. Qu'il y ait des images dans la physique, du point de vue... Comme il y en a en géométrie, on apprend, enfin, moi j'enseigne des mathématiques au lycée, on ne cesse de dire à nos élèves que la figure ne démontre rien. Mais précisément, la figure, c'est une aide pour l'intelligence, qui aide à se représenter, qui aide à imaginer, qui aide à conceptualiser, mais en physique aussi bien qu'en géométrie, la figure ne démontre rien.
Qu'il n'y ait pas que des images mentales, je veux bien l'admettre, qu'on puisse en passer. Alors là, je ne sais pas,
Mais ça n'est pas le
j'ai problème. 25 ans de recherche et je crois que c'est impossible.
Mais il ne s'agit pas de dire qu'on peut se passer de ces images.
Quelqu'un qui est créatif en science, qui n'utilise pas du tout d'image mentale, je pense que c'est pas possible.
Mais vous je pense que je vais permettre que vous mettez
pas ce que vous avez dit.
Oui, que ici, ce qu'il faut distinguer, c'est l'ordre de la découverte et l'ordre de la justification. Dans l'ordre de la découverte, c'est-à-dire dans l'inspiration, dans la recherche, etc., vous utilisez ce que vous voulez. Et même des images, même je sais pas, une remarque de quelqu'un, enfin, tout peut intervenir. Et pour apprendre, on utilise ce qu'on veut. Mais pour justifier, c'est-à-dire pour élaborer, construire la théorie, Einstein ne fait pas d'image. C'est pas le problème. Et de fait, là, ce dont parlait Newton, c'est pas de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'image dans la tête du physicien. Mais c'est de dire qu'il faut bien que le physicien se rende compte que ça n'est pas parce qu'il a une image que c'est une description adéquate du monde réel. Ça n'est pas parce que on voit un écran d'ordinateur ou une distribution de probabilité avec des nuances de couleurs qui a dans le réel cette une bulle qui est semblable à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une forme d'assaise, assaise dissociative, si je puis dire.
Est-ce que le mot heuristique existe chez les lecteurs ou pas? Vous avez la vie.
Non, le mot n'existe pas. Oui, mais la chose, à mon avis, mais le mot.
Le mot
jamais. Enfin, à moins que pas nous en fasse des fous, mais j'ai jamais.
Les heuristiques ne sont pas la réalité.
Vous remarquez.
C'est souvent trompeur.
Je suis pas sûr, en fait, si je peux me permettre, je suis hyper naïve, mais je pense qu'en France, on est un peu trop matheux par rapport à physiciens, le grand pays de la physique, pour moi, c'est la grande culture de la physique, c'est la culture heuristique britannique. Et en fait, là, l'image mentale joue un rôle prépondérant. Tout est vérifié, tout est vérifié et par un processus qui est, où l'image mentale est centrale.
Mais il ne s'agit pas de dire que... Ça me permet de préciser un point, en effet, que
c'est
le rapport entre physique. C'est exactement le point que je voulais préciser.
Et nous, on est partis dans les maths en France comme...
Mais Eddington va remarquer, c'est intéressant, il fait, justement dans le livre que je présentais, de 1907, une comparaison entre l'ingénieur et le mathématicien. Et il écrit ceci. Aujourd'hui, nous n'invitons pas l'ingénieur à nous bâtir le monde en dehors de ses matériaux, mais nous nous adressons aux mathématiciens pour nous le bâtir dans les siens. Il nous paraît nécessaire de nous écarter le plus loin possible de la charpente sèche et rigide dans laquelle l'esprit est si enclin à faire entrer de force tout ce dont il a connaissance. Autrement dit, penser avec des outils mathématiques peut avoir une vertu qui est de nous éviter d'entrer dans ce qui est fondamentalement intuitif. Et de fait, ne serait-ce que la théorie de la relativité générale est contre-intuitive. Et je crois que ni vous ni moi ne sommes capables d'imaginer un espace-temps courbé à quatre dimensions. On peut imaginer peut-être deux dimensions courbées dans une troisième dimension, ok, une surface. Mais quatre dimensions courbées, c'est inimaginable. Parce que nos capacités de représentation, elles ne vont pas jusque-là. Et donc, il est nécessaire, dit Winthrop, d'apprendre à se détacher, non pas voyez définitivement, etc., mais ne pas être soumis à l'image, parce que vouloir faire de l'intuitif, ça bloque la physique. Et d'autre part, il ne s'agit pas non plus, c'est là où la position, à mon avis, est équilibrée, il ne s'agit pas non plus de faire des mathématiques le cœur de la physique. Ça, c'est très important, parce qu'il affirme aussi que les mathématiques sont un outil, et je cite, non le maître en physique. C'est la raison pour laquelle j'ai présenté tout à l'heure les deux manuels qu'il a écrits sur la relativité. Et remarquez, le premier manuel qu'il présente n'est pas mathématique. Enfin, ou très peu. Parce que pour lui, les intuitions physiques, avec leurs images, sont premières pour nous faire comprendre. Mais elles ont de sens, mais ça n'est pas le point final. Elles nous acheminent vers une meilleure compréhension de l'outillage et du formalisme mathématique. Donc c'est indissociable dans un sens, chacun avec sa part.
Si je peux bien, tu vois, peut-être pour faciliter ta pensée, il faut voir à quoi il répond dans ce débat. Il répond au débat donc, qui va de 1925 jusqu'à 1929, etc., ce machin, quand tous les vieux, Lorentz et compagnie, sont contre Heisenberg, qui dit qu'une observable puisse être une matrice et pas une fonction. Ouais. Et donc là, à Solvay, tu as des débats à ne pas finir entre Heisenberg, qui sera défendu par Bohr, et les vieux qui disent non, une observable ne peut pas être une matrice, ça doit être une fonction réelle.
C'est en même temps qu'il y a
Schrödinger avec ça. Oui, c'était un énorme débat philosophique, tu vois. Comment est-ce possible que l'observable du monde réel soit une matrice et pas une valeur réelle? Et Dilthon, il vient de là, quoi. Il développe tout ce que vous
Ce que je propose, c'est de laisser Florian continuer son exposé, parce qu'on aura une discussion après, mais ça me laisse avancer.
Oui, j'ai presque terminé. Je surveille. De fait, ça permet à Eddington de conclure sur la question du symbolisme, peut-être une autre citation qui peut-être vous éclairera. Demandez aujourd'hui à un physicien ce qu'il connaît au fond de la nature de l'électron. Il n'ira pas dans sa réponse les comparer à des boules de billard. Non, il vous montrera certains signes, une série d'équations mathématiques. Mais que représentent ces signes? Il vous répondra en confidence que la physique ne s'en préoccupe pas. Elle n'a aucun moyen, écrit Eddington, de pénétrer au-delà de ce symbolisme. Et c'est la raison pour laquelle il écrit ensuite, dans sa majeure partie de notre étude, notre étude du problème de l'expérience aboutit à un voile de symboles. Il n'a aucun moyen de pénétrer au-delà du symbolisme. Par d'autres moyens, Eddington pensera qu'il est possible de lever ce voile. Ça aussi, c'est important à mon avis. Il est possible d'accéder, pense-t-il, au monde tel qu'il est. Alors, Eddington ne dit pas le monde tel qu'il est, il dit le monde extérieur. Mais il parle du monde objectif, etc., complètement dans la même perspective que chez Kant, objectif veut dire tel qu'il est. Mais par des moyens non physiques. Donc, il est possible pour Eddington, oui, par certaines expériences non pas instrumentées comme la physique, hein, mais expériences esthétiques, par exemple, ça, d'accéder à quelque chose du monde. Même si on ne peut pas forcément le verbaliser, du reste. Mais on n'est pas là du tout dans le registre de la physique. La physique, en tant que telle, dans la phase centrale 1925-1935, il se tient à l'antiréalisme, qu'il modère un peu dans la dernière phase, mais son idée est clairement celle-ci. Cette limitation du champ de la science physique, il me semble, pour peut-être conclure, enfin, je vous parlerai de ça plus tard, qu'il y a effectivement un point là qui me semble tout à fait majeur pour comprendre la dynamique de la pensée d'Eddington, parce qu'il y a d'autres aspects de son œuvre, par exemple la fin de son œuvre scientifique, où il a développé des théories pour déduire la totalité de l'univers, même les constantes physiques, enfin il y a tout un volet de son œuvre qui est assez, à mon avis, incompris à ce niveau-là, non pas au sens où il y aurait une utilité physique particulière, mais sur les motifs de pourquoi il a eu l'idée de développer ce genre de formalisme. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre la dynamique de sa pensée, qui à certains égards est un peu surprenante, un peu déroutante, si on n'intègre pas précisément le bouleversement de la mécanique quantique, c'est-à-dire, pour le dire vite, le bouleversement anti-réaliste de la mécanique quantique qui a été pour lui en 1927 et 1925 d'abord, et si bien qu'il y a une continuité très claire dans ses travaux entre un article, c'est un chapitre de livre, qui s'appelle « Le domaine de la science physique » en 1925, à travers la nature du monde physique, et puis pour finir avec les nouveaux sentiers de la science, qui se conclut aussi avec la question du domaine de la science physique et de ses limites. Ce qui est intéressant, et je terminerai par là, c'est que précisément à cette époque, alors même qu'il modère les prétentions réalistes de la physique, pour le dire comme ça, Eddington va développer une réflexion autour d'une autre forme d'expérience, en contrepoint, une expérience qu'il appelle mystique, qui n'est pas ésotérique, hein, mais à la suite de William James, par exemple, etc. Une expérience mystique, une expérience, par exemple, esthétique, directe du monde, qui pour lui est à côté de la science physique, sans jamais de recouvrement, mais avec une complémentarité, et c'est là où, dans cette période, Eddington va réfléchir au rapport entre la science et le discours religieux. Et tout ça est conditionné par cette sorte de repli des prétentions de la physique, qui sans doute laisse de la place pour que autre chose décrive aussi le monde en complément. Je vous remercie de votre attention.
Merci, merci beaucoup pour votre écoute. Moi, je suis ravi de cet exposé parce que, je le disais avec Michel, nous sommes ici dans un endroit où nous réussissons grâce à Bernard Espagnat, et il y a énormément de points communs entre ce que vous avez présenté de la pensée d'Eddington et ce que disait Bernard Espagnat. Je connaissais mal Eddington et je n'avais pas vu précisément ces choses-là, et je suis maintenant du coup un peu étonné du fait que Bernard Espagnat, où je retrouve beaucoup de points communs, n'ait jamais cité Eddington à ma connaissance. Il s'en est jamais vraiment prévalu. Alors que, quand vous évoquez le fait que, par exemple, il y a cette similarité avec la notion de voile, mais quand vous évoquez le fait que un des moyens d'accès au réel, pour lui, aurait été d'autres moyens comme la poésie, comme l'art, etc., c'est quelque chose que disait explicitement aussi Bernard Espagnat. Alors on peut être d'accord ou pas, hein, mais c'est aussi quelque chose que disait Bernard Espagnat. Je suis assez étonné finalement a posteriori, parce que j'ignorais ça, que Bernard Espagnat, peut-être qu'il ignorait aussi d'ailleurs, ne se soit pas plus appuyé sur Eddington, parce qu'il y a vraiment des similitudes entre les deux pensées.
Et de fait, il y a, et pour moi, il ne s'agit en rien de défendre les thèses d'Eddington, il s'agit d'essayer de présenter les thèses, parce que je crois qu'elles méritent d'être présentées. Il y a quand même une question que l'on pourrait se poser, c'est mais si c'est si intéressant, si c'est si profond, original, pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas davantage de la philosophie de la physique d'Eddington ? Il me semble qu'une des il y a au moins deux réponses, sans doute plusieurs, mais il y a deux réponses au moins à cela. D'abord une réponse de contexte. Eddington la visibilité de la philosophie d'Eddington a beaucoup souffert de la Deuxième Guerre mondiale. Et son dernier livre philosophique le plus abouti, donc La philosophie de la science physique, date de 1939. Et c'est l'un des rares qui n'a pas été traduit en français. Donc, à la différence des deux autres, La nature de la physique et Les nouveaux sentiers de la science. Donc, il n'y a pas de traduction française de ce livre encore aujourd'hui. Donc, sans doute, entre autres, pour des questions liées à la guerre. Et puis, Eddington a beaucoup la réputation d'Eddington a beaucoup souffert des travaux de la fin de sa vie. Les travaux de sa dernière décennie de carrière, autour notamment, justement, d'une théorie qu'il voulait unifiante, donc il a cherché une théorie quantique relativiste. Et il le dit en ces termes, explicitement.
Qui est tout à fait.
Oui, de fait. Mais il l'a fait d'une manière qui a été très mal reçue dans la communauté physique. On le voit par un certain nombre de remarques, de colloques, de lettres aussi. Même Dirac dira à un étudiant qui disait mais c'est n'importe quoi ce qu'Eddington a fait à la fin de sa vie. Et Dirac qui a été l'étudiant d'Eddington. Et avec qui ils ont eu de très bons rapports jusqu'au bout, lui disait il ne faut pas juger quelqu'un sur ce qu'il a fait de pire, mais sur ce qu'il a fait de meilleur. Mmh. Et de fait, Eddington a souffert de cette ce qu'il lui estimait une incompréhension, et puis il y a eu tout cet aspect-là. Il y a eu, j'allais dire, une sorte d'ombre portée de la dernière phase de la physique d'Eddington, parce qu'il a fait quand même aussi des choses qui sont tout à fait reconnues dans le domaine de l'astrophysique, etc. Mais, cette dernière phase de travaux a, je crois, porté son ombre sur sa philosophie, comme si, parce qu'il avait eu des travaux physiques qu'on ne recevait pas, il était un mauvais philosophe. Et je crois qu'Einstein, et le mot n'est pas victime, mais et vit la chose complètement opposée. Je crois que Einstein bénéficie d'une aura extraordinaire parmi aussi bien philosophe que physicien que n'importe qui, en fait, même qui ne connaît pas la physique, Einstein c'est encore une figure extraordinaire. Et de fait, puisqu'Einstein est un bon physicien, alors il est un bon philosophe. Donc on cherche à montrer, donc vous avez tout un tas d'articles qui cherchent à montrer qu'Einstein a vu ceci avant les autres, a anticipé Kuhn, Feyerabend, Popper, enfin, vous avez tout un tas d'articles très sérieux, hein, qui cherchent à montrer en quoi on trouve dans les textes d'Einstein une philosophie de la physique qui anticipe, et le mot est utilisé, tout un tas de personnages. Dans l'idée, à mon avis, a priori, que qu'un grand physicien est un grand philosophe. Ce qui, à mon sens, ne peut pas être une thèse a priori. Qu'il y ait des grands physiciens et des grands philosophes, c'est indiscutable, mais je crois que ça mérite d'être examiné. Eddington, je crois, vit la même chose en symétrique. Pour le dire vite, puisqu'on a finalement trouvé qu'il était un mauvais physicien dans la fin de sa vie, on n'a pas eu envie de lire sa philosophie.
Mais Einstein, à la fin de sa vie, était un mauvais physicien aussi. Parce que dans la fin de sa carrière, il restait quelque chose parce qu'il avait un monument.
Mais au-delà de ça, c'est parce qu'il reste dans l'idée des gens.
C'est une légende.
Ouais, c'est une légende. Mais à la fin de sa vie, de la fin de sa carrière, quand il lui aussi cherchait la théorie unifiée, la plupart des jeunes physiciens le prenaient pour une relique du passé.
Mais ce qui s'attache à l'image d'Einstein aujourd'hui, c'est pas du tout ça.
Non, les choses qu'on a refaites sont des choses qu'avait fait Einstein.
Est-ce qu'on peut revenir sur un des transparents au début? Parce que moi, il y a une citation qui m'a beaucoup plu. Sur une citation qui est dans l'introduction d'un des livres.
Oui, mais
j'ai
pas l'impression.
C'est l'introduction.
Ah,
il y a quand même quelque chose d'intéressant. Il dit c'est peut-être lieu commun qu'il soit. C'est l'esprit, en fait, qui, à partir du substrat construit, l'idée familière du monde qui est autour de nous. Et à cette époque-là, c'est paru en quelle année? C'est en
1920.
Parce que, d'une certaine manière, ça rappelle ce qui a été fait un peu plus tard par certains physiciens qui essayaient de résoudre le problème de la mesure en faisant intervenir la notion d'esprit, mais qui ont été accusés de dualisme. Est-ce qu'à cette époque-là, je pense à von Neumann, par exemple, ou à Wigner, ou à London et Boer, qui sont ceux qu'on cite toujours dans la tentative qui a été faite à l'époque de dire que le problème de la mesure était résolu par l'intervention directe de l'esprit, ce qui évidemment n'a pas plu, ce qui n'est pas passé, qui d'ailleurs colle pas, parce que c'était un dualisme qui avait la grosse difficulté d'avoir une action physique de l'esprit sur la matière, sans explication aucune. Et là, il anticipe un peu ça. Est-ce qu'il n'a pas été taxé de dualisme, là, en disant ça? Alors qu'aujourd'hui, on peut relire ça, moi, je suis en adéquation avec cette idée-là, et donc on peut le relire avec des choses en mémoire plus moderne, mais à cette époque-là, est-ce qu'il n'a pas été justement attaqué là-dessus?
Entre esprit et matière?
Entre le fait de dire, en fait, que c'est l'esprit qui, à partir du substrat externe qu'on ne connaît pas, construit l'image féminine du monde. Ce qui est une thèse avec laquelle je suis en adéquation totale, mais qui est, même aujourd'hui encore...
Et le mot matière, est-ce que vous vous situez dans le substrat ou dans l'esprit?
Non, externe. À partir de quel
point qui est extérieur? Oui, mais c'est là où Eddington n'est pas soumis à ce qu'on dit. Parce que, précisément, le point de vue de cet article-là, qui s'appelle « La signification de la matière », c'est d'expliquer que, d'après lui, la matière est construite par l'esprit.
Oui.
Et c'est pour ça que quand il commente dans cet article l'équation fondamentale de la relativité générale, il dit on a tendance à dire qu'il y a le membre de gauche qui est l'espace-temps et le membre de droite qui est la matière. Eddington ne dit pas du tout, parce qu'on mélange physique et non-physique. Le membre de gauche, c'est très bien l'espace-temps, le membre de droite, c'est quelque chose qu'on sait. En fait, ni l'un ni l'autre on sait, mais ce que l'on peut dire d'Eddington, c'est que quand le membre de droite est nul, alors on n'a aucune perception que l'on appelle matière, ce qu'on appellerait un espace vide. Donc, ce qui est très fort pour lui dans cet article-là, et qu'il va conserver toujours, c'est de dire que le mot matière n'est pas un mot de la science physique.
Il y a écrit whatever may be the true nature of matter. Ça veut dire qu'il ne se prononce pas sur ce qu'est la nature de la matière, mais il place tout cela dans une construction d'esprit.
Oui, y compris la matière.
Et ça, c'est typiquement quelque chose qui, à l'époque, même maintenant, mais à l'époque encore plus,
pouvait paraître comme une position dualiste sur laquelle il aurait pu. Je ne sais pas si ça a été le cas.
Mais c'est là où je ne comprends pas trop pourquoi vous parlez de dualisme. Parce que dans mon idée, le dualisme, c'est qu'il y a d'une part un esprit et d'autre part une matière. Eddington n'a pas le problème du lien entre l'esprit et la matière, puisque l'esprit...
D'idéalisme, alors, on va dire. Pas de dualisme, ok, alors d'idéalisme. Dans ce cas-là, parlons d'idéalisme.
Ah, mais c'était une discussion très forte. Au moment où, et même dans, avec un de ses grands rivaux, James Jeans, à l'époque, il y a eu des discussions très fortes aussi sur le statut relativiste de l'espace-temps, en relativité générale. À cette époque-là exactement, on va se demander, est-ce que l'espace-temps d'Einstein existe? Et pour donner un élément factuel au débat, dans les colonnes de Nature, il va y avoir un échange d'articles successifs autour de cette question. Et certains vont dire, l'espace-temps courbé, ça ne peut pas exister, donc je n'adhère pas du tout à la position, donc je ne veux pas devenir étudier la relativité générale, parce que de toute façon, l'espace-temps ne peut pas être courbé. Bon, on voit. D'autres vont dire, ça c'est Jeans, va dire pour sauver la relativité générale, va dire, ne vous inquiétez pas, de toute façon, ça n'est qu'une description qui sauve les phénomènes comme individuel. Mais est-ce que l'espace-temps est courbé? On n'en sait rien. Et Eddington est plus modéré. Beaucoup plus modéré. Donc c'était une question très forte. La question du dualisme est posée très fort avec des gens comme Haldane, comme Wyndon Carr, etc., qui vont interroger est-ce que la relativité soutient une forme d'idéalisme.
Sur ce texte, en lisant, je ne connais que ce paragraphe mais il me semble que M. Eddington a été, en fait, il employait ses mots à la légère. Donc il ne faut pas voir dans ce texte quelqu'un qui pense au sens de chaque mot qu'il utilise. Parce que, par exemple, quand il dit Catherine Lune de la fin, donc, in selecting and endowing with substantiality one particular quality of the external world, and to see that practically no other choice was possible for a rational mind. Ouh là là. Bon, no other choice was possible est un argument néo-transcendantal, bien sûr. Donc là, il s'agit des conditions de possibilité de théorisation. Mais que fait le mot practically dans tout ça? Ça veut dire quoi practically? Est-ce que c'est un point de vue pragmatique? Est-ce que c'est juste une expression à la légère de langue anglaise qu'il met dedans, quasi. Mais ça veut dire quoi? Parce que si c'est un argument transcendantal, on ne peut pas mettre.
Non, mais practicalité, je crois que c'est dit dans le sens qu'il y avait quasiment.
Oui,
pas
oui,
pratiquement.
Oui, sens, oui, oui, oui. Donc, quand je lis des phrases comme ça, je me dis qu'il ne faut pas prendre trop au sérieux chaque mot qu'il met dedans. Là, il y a un peu de légèreté dans le choix des mots.
Ça, c'est indiscutable. Et puis, Eddington n'est pas un philosophe professionnel, il va. Mais si vous permettez, ce que j'ai essayé de synthétiser sur sa conception de la matière, c'est l'article en entier. Hein. Je ne me fiais pas juste à ce paragraphe.
Oui,
j'ai une question à propos de la constante des structures fines. À la fin, vous avez insisté sur le fait que dans sa théorie de l'unification mécanique quantique générale, il avait travaillé sur les constantes. En particulier, j'ai lu. La question justement à ce propos, qu'à propos de la constante de structure fine, donc pour lui c'était la source 136, il avait une approche, bon, c'est en fait plus la source 137, une approche numérologique de 136. Alors j'aimerais savoir un petit peu ce que ça signifie, parce que très récemment, un immense mathématicien qui s'appelle Michael Attia a écrit un article sur la constante de structure fine. Il cite plusieurs fois Eddington en disant que ces approches numérologiques, tout le monde avait considéré qu'à l'époque, enfin, qu'il était devenu gâteux. Il dit, je vais en fait reprendre cette idée et essayer de montrer que dans l'universalité de cette constante et dans sa valeur, il y a des contraintes mathématiques énormes, ce n'est pas simplement une constante qu'on mesure physiquement. Donc, est-ce que vous avez un petit peu regardé ça, et est-ce que vous pouvez préciser ce que veut dire numérologique?
Oui. D'abord, d'abord, c'est un mot qu'Eddington n'emploie jamais. Jamais. Numérologique, j'entends.
Parce que le 137, il l'a ramené à 136.
C'est dans votre sens. Non, oui. De fait, l'idée est que. Ce serait tout un. J'étais invité au début du mois à Nantes au centre François Viette pour faire un exposé précisément sur cet aspect. Donc j'essaie de synthétiser sur ce point précis. L'idée d'Eddington est qu'il est possible de Enfin, c'est que toute théorie est déduite. Et ça, on trouve ça partout, chez Einstein, etc. Donc, il faut élaborer un dispositif théorique qui permette de déduire les résultats des mesures. Résultats qu'on va ensuite confronter précisément aux mesures qualité. Dans une première version, il va déduire, alors en fait c'est l'inverse de la constante de structure finie qui travaille, donc d'abord il va déduire 136 exactement. Et puis il va être...
Quel genre de calcul? Parce que ce que j'ai bien compris, même si je ne l'ai pas lu, c'est que son idée, c'est que ce n'est pas une constante expérimentale. On va pouvoir trouver une valeur 136 pour des raisons profondes, enfin de structure.
Non, je pense qu'il y a un point là qu'il faut préciser. C'est qu'on peut y accéder expérimentalement, mais on peut le retrouver déjà par la théorie. Il y a une image peut-être parlante. Et de fait, sur les aspects les plus techniques, là, comme ça, je n'ai pas tout en tête, mais je vous retiendrai mon mail, si vous voulez, je vous envoie des documents là-dessus, ça, avec plaisir. De fait, Eddington a une image parlante. Il prend, au début de ce livre, La philosophie de la science physique, il prend l'image d'un pêcheur. Il dit, imaginons quelqu'un qui est sur une barque au milieu d'un lac et qui, avec un filet, remonte des poissons. Il mesure la taille des poissons. Et il mesure tous les poissons, il les crange dans un tableau et il voit que aucun poisson ne mesure plus de 3 cm. Conclusion, il n'existe pas de poisson de plus de 3 cm. Incroyable. Eddington dit, bon ben très bien, il est arrivé à cette conclusion en mesurant les poissons, mais il aurait pu mesurer autre chose aussi. La taille des mailles du filet. Et s'il avait mesuré les mailles du filet, avant même d'avoir lancé le filet, on aurait pu être sûr qu'il n'aurait pas attrapé des poissons en dessous de 3 cm. Autrement dit, il est possible d'accéder à une même valeur par une voie empirique et par une voie, on pourrait dire, purement rationnelle. C'était l'idée d'Eddington. C'est qu'il fallait avoir un maximum de mesures. Il est possible, pensait-il, d'établir une théorie qui, sans avoir recours aux mesures, arrive aux mêmes valeurs que celles que l'on obtient par les mesures. Autrement dit, une rencontre de haut vers le bas et du bas vers le haut. Et d'abord, avec une idée, ça
c'est ça. C'est ce qu'on appelle un miracle.
Ben, toutes les théories physiques fonctionnent comme ça, en un sens.
Oui, mais je pense que ça s'appelle la physique, non
enfin, mais toutes les théories fonctionnent comme ça. Avec une idée très forte que la physique fonctionne, je cite, par essai et erreur. Donc, c'est, en un sens, c'est très concret. Il dit on élabore un modèle, une théorie, on arrive à des prédictions, par exemple, inverse de la constante de structure finie, 136. On fait des mesures, on trouve plutôt 137. Bon, ben, il faut revoir le modèle. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a revu son modèle, il aboutit à un modèle avec une variable qui donne 137. Peut-être que si vous permettez, pour finir, je vais vous montrer quand même un tableau comparatif. Parce que je crois que ça s'insère très bien dans votre question. Je vais essayer de retrouver le plus possible. Voilà. Pour que vous représentiez ce à quoi il était parvenu à la fin de sa vie. Donc.
Mais est-ce que la théorie qui donnait 136 était quelque chose de bien construit avec
Non, de ce que je peux en juger, ça a l'air... Schrödinger a dit qu'il l'avait jamais compris, même s'il a été celui qui l'a le plus soutenu. C'est un mélange. Mais je trouve numérologique, je trouve que l'adjectif est très péjoratif. Parce que c'est un mélange entre... De fait, c'est un mélange entre... Entre intuition et expérience. Donc ça, c'est le tableau. Ça, c'est un exemple de ce à quoi il parvient à la fin de sa vie. Vous avez dans la colonne, donc quelques exemples de constantes. Dans la toute dernière colonne, vous avez les valeurs expérimentales de son époque en 1942, et dans l'avant-dernière colonne, vous avez les valeurs qu'il a déduites par sa théorie. L'accord est quand même assez surprenant.
Mais comment il fait pour calculer la masse de l'électron
Quel genre de théorie
c'est ça? Parce qu'arriver à déduire la masse des particules directement d'une théorie, on aimerait bien.
C'est ce que tout le monde cherche.
C'est ce que tout le monde cherche, oui. Mais qu'est-ce que c'est ta théorie là-bas qui est derrière?
Je peux vous envoyer l'article si vous voulez. Oui.
C'est pas mauvais comme accord.
Non, mais d'ailleurs, si ça vous intéresse au-delà de ça, en fait les documents. Les documents de synthèse, pardon, puisque ça intéresse bien personne.
Déjà bien, les déduire.
Oui, les documents de synthèse, c'est juste ce que ça intéresse personne, c'est-à-dire les livres d'Eddington, ils sont gratuitement disponibles sur Internet. Hein. Donc, si ça vous intéresse, je vous donnerai les références, et sur archive.org, vous pouvez télécharger, ils sont dans le domaine public, qui synthétisent les articles.
J'ai une question par rapport à la... Bon, il a un modèle, et il en déduit les masses des particules, il en déduit ces constantes-là. quelles sont les constantes de base dont il part? Il ne part pas de zéro. Qu'est-ce qu'il a dans son modèle comme point initial pour partir? Quelles sont les valeurs qu'il se donne au départ? Est-ce qu'il a des paramètres qu'il se donne ou est-ce qu'il a zéro? Parce que partir de zéro paramètre et arriver à calculer la masse de l'électron et du proton, voilà, aujourd'hui.
C'est un tour de force.
C'est un tour de force.
Je voudrais donner une analogie quand même aujourd'hui, parce que si tu prends la théorie, le modèle d'Alain Cohn, où il écrit le modèle standard avec un petit peu de géométrie non commutative, il a quand même une théorie qui prédit deux des paramètres du modèle standard et personne n'est jamais parvenu à n'en prédire autre. Donc il a un calcul mathématique qui découle de son modèle et au lieu d'avoir 20 paramètres libres, il en a plus que 18. Et donc on peut imaginer que c'est quelque chose de ce genre. C'est intéressant peut-être à la lumière des mathématiques modernes et de la physique moderne
de
revoir cette théorie. Ouais, qui
en tout cas, c'est intéressant de regarder.
C'est ce que fait il a.
Oui. Ouais. Je vais poser une question à ce propos. Il a quand même besoin des expériences pour vérifier.
Donc la pointe de droite, ce sont les expériences.
Alors peut-être que je n'ai pas bien compris, mais ce que j'avais compris dans votre exposé, c'est que quand il passait du symbolique à la structure, il se détachait complètement de l'acte d'observation pour décrire le réel. C'est-à-dire que pour lui, le réel, c'était la structure, le symbole, mais il ne mettait pas l'expérience.
Je pense que j'ai l'impression que vous associez l'expérience avec le réel. Mmh.
Là, si j'ai pas l'expérience, j'ai rien du tout. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une théorie qui se balade dans la nature.
Mais l'expérience et le réel, ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire, les résultats expérimentaux que vous obtenez, par exemple,
Non, je n'associe pas l'expérience au réel, je vous demande juste si dans sa conception des choses, il n'y a que de la structure et du symbole, ou s'il laisse une place à l'acte d'observation.
Ah oui, évidemment, l'acte d'observation est le test. Vous, par de la structure et du symbole, faites une déduction, vous faites votre théorie, voyez, vous arrivez à vos valeurs calculées, et ensuite vous confrontez aux résultats expérimentaux. Donc, les résultats expérimentaux. Ce n'est pas ce dont vous partez, mais c'est ce à quoi vous devez arriver.
Dans la théorie de...
Dans sa conception, oui. Les résultats expérimentaux, vous n'en partez pas, mais vous devez les retrouver. Je me permets pour terminer...
Pourquoi on n'en part pas? Peut-être c'est une question de vocabulaire, j'ai l'impression qu'en fait il y a encore beaucoup de...
Ah ben parce que l'induction, ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas partir d'un nombre de faits et puis déduire quelque chose à partir de ces faits mêmes. Vous voyez des faits, mais vous avez alors l'intuition, par exemple, d'une formule unificatrice ou quelque chose comme ça. En d'autres termes, vous ne faites pas une déduction des lois à partir des faits, mais plutôt des faits à partir des mesures à partir des lois.
Une petite question technique. Est-ce que cette position de Newton, on la classerait aujourd'hui dans ce qu'on appelle le réalisme structurel?
Je pense que c'est ce que
disait Stephen Frank.
Un institut de physique théorique sans expérience, il n'a aucune chance de faire un progrès.
C'est un dialogue entre théorie et expérience.
Il y a Einstein, aucun chemin ne mène de l'expérience à la théorie. Par contre, un chemin peut mener d'une théorie à des prédictions qui vont être testées par l'expérience.
J'avoue, je ne comprends pas la première phrase.
Einstein a été guidé par population.
Mais oui, mais c'est un cas unique dans pratiquement tous les autres cas.
Je
vais vous donner juste un exemple que je connais bien, la théorie de la supraconductivité. Tous vos physiciens préférés, Einstein, Feynman, etc., ils ont fait des théories fausses. Et ça a pris 50 ans. Et s'il n'y avait pas eu des dizaines et des dizaines d'expériences différentes qui pourraient.
Mais ça n'empêche pas. Mais
alors qu'est-ce qu'on est en train de dire?
Si faire une théorie qui avait été proposée et mise face à l'expérience, il n'y aurait pas un chemin qui directement te mènerait à la bonne théorie. Il faut cette espèce de dialectique théorie-expérience qui fait sans cesse rétroagir les tests que tu fais d'une mauvaise théorie pour reconstruire une autre théorie mieux.
Il n'y a pas d'expérience.
Vous avez dit qu'il avait été influencé par Poincaré.
Oui, pour une part.
Bon, et Poincaré, Poincaré a beaucoup plus de
réalisme. Non, mais là aussi, l'autre aspect, c'est-à-dire Stephen French fait de lui une sorte de précurseur du réalisme structurel. Ce dont, en vous écoutant, je ne suis pas du tout convaincu, parce que justement, pour lui, une structure n'a pas le sens du structure mathématique de la théorie à part. Je ne sais pas dans quelle mesure cette structure est là en temps, la structure mathématique de la théorie, comme dans le réalisme structurel. C'est bien la structure mathématique de la théorie. Donc, est-ce que vous. Est-ce que vous suivez complètement Stephen French ou pas complètement
En partie, oui. Je crois que le mérite de l'article, c'est d'avoir un grand article de French dans lequel il travaille sur tout ça, puis il a repris dans ses ouvrages. Son grand mérite, c'est d'avoir remis à l'ordre du jour cet aspect-là. À mon avis, la difficulté de l'article, c'est qu'il aborde des textes des trois périodes, des trois phases de la pensée d'Eddington indifféremment. Donc, à mon avis, ça mélange un peu tous les points de vue. Mais je crois que Eddington, par certains aspects, s'apparente au réalisme, à une forme de réalisme structural. Mais le mot structure est assez sous-déterminé. Donc, qu'est-ce qu'il entend exactement par structure ? Ça, c'est difficile. Mais il affirme clairement que la physique, en tant que telle, ne connaît rien d'autre que la structure. Donc, ça c'est un point. Donc, ce sont des thèses négatives chez Eddington. Il dit que la physique n'accède pas à autre chose que la structure. Mais ce qu'il faut quand même préciser, c'est que si on prend l'ensemble de la philosophie de la physique d'Eddington, il est plus que réaliste structurel. Parce qu'il pense que par des moyens non physiques, on peut atteindre le réel en tant que tel. Donc, parce qu'il pense que par des moyens non scientifiques, on peut atteindre le réel en tant que tel. Donc, ça c'est hors du champ du réalisme structurel. Donc, il faut prendre les deux. Je me permets, pour finir justement, de vous indiquer le colloque à venir autour d'Eddington, parce que l'appel à contribution est encore en cours, et que vous êtes bien entendu les bienvenus pour assister ou pour participer. Le site sur lequel se trouvent toutes les informations, c'est eddingtonstudies.org, donc vous pouvez retrouver l'appel à contribution et les informations. Stephen French sera de la partie, si je puis dire, puisqu'il viendra intervenir. Donc ce colloque se déroulera à l'Institut d'Astrophysique de Paris, dans l'amphithéâtre Henri Mineur à l'Institut d'Astrophysique, en partenariat pour l'instant avec les institutions qui sont présentées ici. Et de fait, l'ouverture du colloque sera vraisemblablement assurée par Lord Martin Rees, qui est l'ancien président de la Royal Society. Et nous aurons, durant ce colloque, plusieurs aspects qui seront travaillés. Les aspects philosophiques, bien entendu, de la pensée d'Eddington. Je pensais à Stephen French, Michael Esfeld viendra de Suisse, et notamment. Mais aussi des aspects historiques et scientifiques. J'étais en échange ce matin avec Georges Ellis, qui viendra d'Afrique du Sud pour parler d'Eddington et de la cosmologie. Et puis un certain nombre de collègues français que vous connaissez, comme Jean-Pierre Linet, par exemple, qui interviendront sur tout un tas d'aspects historiques, scientifiques et philosophiques autour d'Eddington. Vous êtes bien sûr les bienvenus pour proposer une contribution, ce sera avec grand plaisir, et également pour participer et contribuer à la réflexion. Les actes du colloque seront vraisemblablement publiés ensuite par Cambridge University.
Merci beaucoup.
Je vous remercie vraiment.
Merci
pour vos remarques.
Merci.